I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo, console, PC, portable, etc., etc. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va avoir une émission un petit peu plus courte, un petit peu spéciale parce que j'avais un emploi du temps et des petits soucis, on va dire, qui m'ont empêché de faire un épisode normal, mais je ne voulais pas non plus vous laisser sans aucun Rendez-vous Jeu et bon, j'ai pensé pendant un moment à faire un épisode soit encore dans un aéroport, soit même dans un avion, soit dans un café. Et puis, bon, là, finalement, je suis au calme, donc ça va aller, ça va être au moins un petit peu plus... On va dire qu'il n'y aura pas de pollution sonore derrière, c'est déjà ça, on va dire. Mais voilà, l'épisode sera quand même un petit peu plus court, je pense, parce que je suis tout seul d'une part, et même si j'aime beaucoup m'entendre parler, je vais quand même pas parler tout seul pendant 2 heures, encore que, sait-on jamais. Et puis surtout, je vais couvrir les petits morceaux intéressants, mais peut-être pas l'intégralité de toute l'actu, même si il faut avouer qu'elle est relativement calme. Relativement calme, c'est une façon de parler parce qu'on a quand même beaucoup d'informations sur la Switch qui tombe à quelques jours de sa sortie. On a Horizon Zero Dawn qui sort demain et donc on a les reviews qui sont sorties. On a quelques autres petites informations qui sont disponibles également. Mais on va dire que c'est pas non plus 10 000 trucs à traiter. Donc voilà, je pense que ça peut se gérer tout seul. J'espère que vous apprécierez cet épisode fait tout seul, comme ça arrive de temps en temps. Et on va se lancer immédiatement avec, évidemment, comme à chaque fois depuis l'annonce de janvier, une première partie sur la Switch et sur ce qui s'est passé dans le quotidien de la Switch. Avec des news sur Zelda, des nouveaux jeux qui sont annoncés sur la console, des news sur la console virtuelle, etc., etc. Et donc le premier morceau, c'est le Season Pass, le comment ils l'ont appelé, Expansion Pass de Zelda, qui a été annoncé pour une vingtaine d'euros, une vingtaine de dollars, et qui va inclure des nouveaux modes et enfin deux gros morceaux, un morceau qui aura des modes challenge et un morceau qui sera une aventure en plus, avec des dates de sortie pour le mode challenge, on va dire, de cet été, et l'aventure en plus pour cet hiver. Et bien sûr, ça a provoqué des réactions assez fortes, assez vives, avec des gens qui étaient surpris de voir que Nintendo se lançait dans la mode du Season Pass. Surpris, je fais un petit euphémisme, parce que certains étaient, on va dire, désagréablement surpris. Allez, on va le dire comme ça. Et bon, c'est disons le l'éternel débat qu'il y a sur les Season Pass, avec la peur que les développeurs amputent un certain morceau du jeu pour le réserver à un Season Pass qui sera un moyen de d'essorer encore plus les gens qui apprécient le jeu. Je pense que c'est une vision un petit peu réductrice de ce Season Pass, comme on en a, enfin des Season Pass en général et des DLC en général. Comme on en parle souvent, il peut y avoir un juste milieu. Je crois qu'il y a quelques années, certains développeurs ont poussé un petit peu le bouchon. On a eu l'exemple, par exemple, de Season Pass qui était déjà sur le disque vendu, ce qui, même si techniquement c'est la même chose, fait passer la pilule un petit peu plus difficilement. Mais je pense qu'on est un petit peu en train de trouver l'équilibre avec des jeux vendus à l'origine qui sont vraiment complets et vraiment bons, Et qui inclut une aventure satisfaisante, on va dire, et puis des contenus additionnels qui permettent d'une part aux développeurs de rentabiliser les développements qui sont de plus en plus chers, et évidemment de faire payer encore plus à des gens qui sont leurs clients et qui apprécient ce jeu. Donc c'est un moyen de leur faire sortir de l'argent sans forcément avoir à leur revendre tout un jeu en plus. C'est clairement une quelque chose de commercial, mais en même temps, ça permet aux gens qui aiment un jeu d'en avoir plus sans forcément avoir à attendre la suite de un gros morceau, enfin un gros jeu, un numéro 2 ou un numéro 3 ou ce que c'est. Donc je crois que quand cet équilibre est bien trouvé, et de plus en plus on réussit à bien le trouver, c'est un petit peu du gagnant-gagnant et tout le monde y trouve son compte. Là, on ne sait pas encore ce que sera Zelda, même si je vais y revenir un petit peu plus tard, les premières impressions qu'on commence à avoir sont quand même hyper positives, mais il n'est pas surprenant que Nintendo se lance dans cette politique, et à vrai dire, c'est pas la première fois, ils ont déjà commencé à faire du contenu additionnel payant sur différents titres, que ce soit Mario Kart ou Splatoon ou ce genre de trucs. Donc, et puis évidemment, je veux dire, c'est un truc auquel ils ne peuvent pas résister. Toute l'industrie, c'est une conséquence logique de la dématérialisation du business du jeu vidéo. Donc, c'est finalement assez logique qu'on en arrive là. Il n'y a pas vraiment de raison que Nintendo se prive. Encore une fois, surtout si on est dans une configuration qui rend tout le monde gagnant, quoi. Donc bon, voilà pour la petite question du Season Pass de Zelda. Je suis sûr que certains d'entre vous auront d'autres choses à ajouter sur le sujet. N'hésitez pas à venir sur le blog, sur frenchspin.fr, pour me faire part de votre idée sur la chose. Un autre truc qui m'a marqué, c'est les pubs qu'on a vues, les pubs japonaises sur One Two Switch, qui sont assez surprenantes en ce sens que je le disais dans mon émission en anglais, the unthinkable has happened, I understand One Two Switch. Genre, je comprends qu'il pourrait être fun. C'est l'impensable qui s'est produit. Et en fait, les pubs, si vous ne les avez pas vues, montrent un contexte vraiment particulier. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui jouent à One Two Switch, comme on en parle depuis longtemps. Et puis autour, plein de gens qui sont en train de voir l'action. Et certaines personnes ont dit, ah bah oui, c'est normal, c'est un party game, quoi. C'est comme ça que ça se passe dans les party games. Mais en fait, pas tout à fait, parce que dans les party games, comme on y pense généralement, et en particulier avec la Wii, tout le monde était tourné vers le jeu en lui-même, vers l'écran. Et tout le monde regardait l'écran, voyait ce qui se passait à l'écran, et trouvait ça amusant. Là, enfin, on trouvait ça amusant si tout se passait bien. Là, les jeux qu'on voit n'ont vraiment aucun intérêt. L'intérêt se situe vraiment dans le fait de regarder les participants et de crier sur telle personne qui gagne ou qui perd. Et on est vraiment, on détourne l'attention de l'écran aux joueurs. Et donc, je pense que c'est un petit peu pour ça qu'il est difficile de voir l'intérêt du jeu si on le voit pas dans ce contexte. J'imagine que dans avec un anniversaire avec des enfants ou ce genre de truc, ça pourrait plus ou moins fonctionner. Maintenant, bon, n'allons pas trop loin, ça veut quand même pas dire que je vais acheter le jeu et je n'y vois toujours pas d'intérêt à y jouer à deux, et à vrai dire, même en tant que party game à plusieurs adultes, je suis pas certain que ça serait hyper fun. Donc, c'est vraiment relever la barre alors qu'elle était tellement tellement bas que ça donne toujours pas grand chose, quoi. Mais c'était notable de se dire que c'était tellement improbable à mon sens que je trouve un intérêt à One Two Switch que le fait que je vois comment ça pourrait fonctionner de manière intéressante, bah je voulais vous en faire part parce que bon voilà, c'est à mon sens notable. Et d'une manière générale, il y a un petit peu plein de choses qui viennent se mettre en place pour faire du lancement de la Switch quelque chose de moins... J'hésite à utiliser le terme désastreux parce que c'était quand même pas à ce point-là, mais clairement, vous vous en souvenez, dans les épisodes précédents après les annonces de janvier, moi j'étais très déçu. parce qu'il y avait plein de petites déceptions en fait. C'était ça, un florilège de petites déceptions. Et je pense que pour la plupart de ces petites déceptions, on a eu un mieux. Alors, c'est pas parfait, mais il y a plein de petits jeux qui seront disponibles. On pense par exemple à Snipper Clips, qui est ce petit jeu indé qui a l'air très mignon et très sympa, qui sera disponible en lancement. On a Faster MX, qui est une sorte de allez, mélange entre F-Zero et ce jeu PlayStation. Le nom m'échappe. C'est une sorte de F-Zero réimaginé. C'était Fast Racing Neo. C'est la suite de Fast Racing Neo qui sera disponible à la sortie aussi. Les prix en France, en tout cas, qui étaient très élevés à mon sens, ont chuté absolument partout. Il est très facile, même encore il y a deux jours, de trouver un bundle avec la Switch plus Zelda pour 350 €, ce qui est un montant qui était plus dans ce qu'on espérait, qui est plus dans les eaux de ce qu'on espérait en janvier, quand il a été annoncé qu'on serait à 229 pour la, enfin qu'on a constaté qu'on serait à 229 pour la console et 70 pour le jeu. Donc voilà, on a tous ces petits éléments, on a plein de petits jeux qui sont confirmés. On a le fait que les jeux, enfin ça c'est limite évident, mais les jeux console virtuelle pourront être réinstallés sur la console qui a le compte Nintendo. On pourra réinstaller les jeux, contrairement à ce qui se passait avant, où les jeux étaient liés à une console. Encore que certains interprètent la lecture du document qu'on a vu passer comme le fait que on peut réinstaller sur la même console, mais c'est vraiment une vision très très sombre de ce document, une lecture très sombre de ce document. A priori, on se dit que on a enfin un système où on peut réinstaller les jeux sont liés au compte et non pas à la console, ce qui bienvenue en bienvenue dans les années 2000 quoi. À côté de ça, la console virtuelle ne sera pas disponible pour le lancement de la Switch, ce qui est une petite déception, mais clairement on avait tellement peu d'informations que on se doutait bien que ça serait le cas. Je pense que si c'est décalé de quelques semaines et qu'on peut avoir en plus certains jeux qu'on a déjà achetés ailleurs, eh ben ça sera une bonne nouvelle pour tenir sur la longueur avec cette Switch. Mais voilà, on a aussi l'annonce de différents petits jeux indés, comme le développeur de Towerfall, vous en souvenez peut-être, c'était un jeu indé qui avait eu beaucoup de succès et qui était très sympa à plusieurs, il y a quelques années, qui a annoncé Celeste, qui est même pas dans le style, c'est le style graphique très pixel art, mais qui a l'air très très dur quand même, mais c'est un jeu de plateforme qui a l'air relativement sympa. Et ce dont on pensait qu'il arriverait semble être en train d'arriver, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'indés qui sont en train de s'orienter vers la Switch pour certains de leurs projets. Donc ça peut fournir un catalogue de jeux qui viendra on va dire alimenter les joueurs qui ont choisi d'acheter la Switch entre les grosses sorties de Nintendo. Donc voilà, c'est là où il y avait plein de petites déceptions à l'annonce, toutes sont un petit peu améliorées, on va dire, depuis ces dernières semaines. Avec je dis un petit peu amélioré, je reste pas complètement convaincu de la valeur de la Switch, et même si moi je suis en train de me faire prendre par une sorte de hype pré-sortie de console, je suis pas convaincu qu'elle dure au-delà de l'excitation qu'on est tous en train de vivre avec une sortie de console, ce qui est normal, hein, on est toujours un petit peu plus excité quand il y a la sortie d'une nouvelle console. Mais là, je ne suis pas convaincu que cette excitation se justifie après la sortie, on va dire après 2-3 semaines après la console. Peut-être que ça va retomber tout de suite, mais là, c'est vrai que moi, je suis un petit peu plus excité avec cette note tout de même que je reste pas convaincu que je l'aurais acheté si c'était pas entre guillemets pour le boulot, l'excuse que je donne toujours, si c'était pas pour le boulot. Bon, là il se trouve que c'est aussi mon travail, donc je me dis allez, je l'achète quand même. Donc je reste un petit peu ambivalent, mais, et j'ai gardé ce morceau pour la fin de la partie sur Nintendo et la Switch, les previews qu'on a de Zelda sont quand même vraiment au-delà de ce qu'on pouvait espérer, malgré Même les gens les plus enthousiastes, je pense, et c'est amusant parce que je traîne beaucoup dans le subreddit de la Nintendo Switch ces derniers jours, et c'est assez incroyable le niveau de fanboyisme qu'il y a dans ce subreddit. Enfin, c'est normal, en même temps, on va sur une communauté dédiée à cette console, évidemment qu'il va y avoir des gens enthousiastes, mais enfin là... on est dans le cœur de du fanboyisme, quoi. C'est mignon à voir en même temps. Et puis, il y a plein de signes positifs. Donc, on va pas cracher dans la soupe, mais c'est amusant. Allez y faire un tour. Vous verrez, c'est une expérience ethnographique amusante. Mais bon. Donc, tout ça pour dire que les previews de Zelda sont vraiment excellentes. On aura des reviews dans quelques jours à peine, juste avant la sortie, mais déjà, les previews et les premières impressions qu'ont commencé à avoir des journalistes qui y jouent depuis plusieurs jours déjà sont hyper, hyper positives. C'est-à-dire qu'on est, a priori, dans un niveau de, non seulement système seller, mais vraiment jeu de l'année, l'un des meilleurs Zelda, et pourtant des bons Zelda, il y en a eu beaucoup, mais là, on est dans l'un des meilleurs Zelda, on a des impressions qui parlent d'un jeu open world qui réussit à ne pas tomber dans les pièges classiques de l'open world, c'est-à-dire trop de missions qui sont pas intéressantes, plein de choses à faire, mais en fait rien qu'on a envie de faire, etc. Et plutôt, au contraire, retrouver la magie du premier Zelda, en fait, qui est ce sentiment d'aventure, d'exploration et de liberté qu'on découvrait dans le premier et peut-être le troisième Zelda. Donc, on a ces... Enfin, je vais pas vous refaire les previews, allez les lire et vous aurez les reviews très bientôt. Mais donc, des impressions sur Zelda qui vont au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Et pourtant, les espoirs étaient très élevés. Donc, évidemment, il faut attendre de voir les reviews, les avis de tout le monde et puis peut-être même de certains de nous-mêmes pour voir ce qu'on va en penser. Mais ce jeu-là, en tout cas, ça commence à sentir très très bon. Donc, si vous avez une Wii, bah peut-être que ça vaut le coup de l'acheter sur Wii. Pardon, je parle d'une Wii U, bien sûr. Si vous êtes intéressé par les jeux Nintendo, eh ben il est possible que la Switch vaille le coup. Si vous avez un petit peu de sous de côté et que vous aimez les jeux Nintendo en général, et peut-être que vous avez sauté la Wii U, ça vaut peut-être le coup de vous lancer, ne serait-ce que pour Zelda. C'est vraiment la définition d'un système seller. Donc voilà, moi, j'espère que je l'aurai vendredi, si tout va bien. Il y a eu des opérations un petit peu compliquées dues aux circonstances dans lesquelles je suis, mais normalement, si tout va bien, je l'aurai vendredi, et puis je pourrai le tester et vous donner mes impressions à la prochaine émission. Mais bon, clairement, l'enthousiasme est plus grand aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques semaines ou quelques mois, donc... on va voir comment ça se passera, on aura la réponse plus que quelques jours à attendre maintenant. Voilà pour la partie Switch et la partie Nintendo. C'est marrant de parler de Zelda parce qu'il y a un autre jeu dont on attendait beaucoup qui est disponible dans 2 jours au moment de l'enregistrement, enfin demain même. C'est Horizon Zero Dawn, bien sûr, sur PlayStation 4, une exclusivité. Jeu de Guerrilla Games, si je ne m'abuse, qui avait fait beaucoup d'effets à l'E3 et dont, comme vous le savez, sur lequel je commençais à devenir sceptique parce que il y avait peu de communication. Et bien là encore, les retours et les reviews sont extrêmement bons, peut-être pas aussi bons que Zelda parce que là ça a l'air d'être l'événement d'une vie, hein, ce Zelda, mais clairement, il y a certaines personnes qui parlent de jeu de l'année, enfin de jeux de l'année avec le point d'interrogation parce qu'il y a tellement de jeux qui vont arriver dans l'année et de jeux qui ont l'air très bons que du coup on veut pas se mouiller, mais beaucoup de gens parlent d'un jeu vraiment excellent. Là encore, on a cet écueil de l'open world qui semble être contourné avec des envies de faire plein de choses tout le temps, même si c'est-à-dire que on a tout qui est motivant Et pas juste des séries de points d'interrogation et de points d'exclamation et de quêtes à faire partout comme on peut les trouver dans certains jeux open world. On en parle souvent avec les jeux Ubisoft, mais on peut en parler dans pour plein d'autres jeux open world également, où c'est un petit peu l'arbre de Noël et il y a plein de missions mais rien qu'on a envie de faire. Là encore, dans Horizon Zero Dawn, le thème qui revient souvent, c'est cette idée que tout est intéressant à faire et les personnages sont intéressants, l'histoire sans être invraisemblable est intéressante, etc., etc. Donc, et puis cette mécanique avec les dinosaures, mécaniques justement, qui fonctionnent vraiment, les combats qui sont un petit peu connexes avec ce qu'on peut voir dans Monster Hunter, mais beaucoup plus accessibles. Donc vraiment. Beaucoup de positifs sur Horizon, d'une manière que je commençais à en douter, on va dire. Donc voilà, c'est peut-être un jeu à prendre en considération si vous avez une PlayStation 4 et que vous êtes intéressé par la hype de l'open world dont on vous parle avec Zelda. Là encore, disons que la petite je vais pas dire le truc qui est un petit peu dommage, mais j'ai l'impression que Horizon va sortir et que tout le monde va s'intéresser à lui avec mardi avec l'arrivée. C'est le 28. Et puis 3 jours plus tard, il y a Zelda qui arrive et du coup on va passer Horizon sous le tapis. Mais bon, en même temps, il y a plein de gens qui ont une PlayStation 4 et la première fournée de Switch c'est 2 millions. Donc 2 millions par rapport à combien ils en ont vendu des PlayStation et 50 millions, non ? Je sais même plus, je suis en train de dire des bêtises. PlayStation 4 Sales Numbers. Je vais regarder ça en même temps. Bon, bref, on s'en fout. C'est beaucoup de PlayStation 4, plus que de Switch, évidemment. Donc bon, voilà, Horizon a l'air d'être une excellente... Une excellente, je vais pas dire surprise, mais en tout cas un excellent titre. Et puis, même ça, oui, c'est ça, hein, qu'est-ce que je disais? Bon, je sais plus. C'était 50 millions, je crois bien. Excusez-moi, ça va m'embêter pendant toute l'émission, donc c'est bien ça, 50 millions, tout va bien. L'autre truc à voir, c'est que sur cette période, on va avoir donc Horizon et puis la Switch. Et puis, juste derrière, on a quand même Mass Effect qui arrive aussi, avec lui également.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Un optimisme. Dire un optimisme prudent, mais tout de même un optimisme avec des impressions qui sont assez positives, quoi. Alors là, c'est basé sur des previews pendant lesquelles les journalistes ont eu accès au jeu pendant quelques heures seulement, hein, ils l'avaient pas dans les mains pour le décortiquer entièrement, mais un système qui, dans l'ensemble, a l'air de fonctionner. À voir si la sauce prend sur le long terme, mais là encore, on a des impressions plutôt positives sur Mass Effect Andromeda, qui du coup, vient encore s'ajouter à la quantité de jeux incroyables qui sortent cette année et ce début d'année qui est après des jeux comme Resident Evil ou même Nioh d'ailleurs qui vient de d'avoir une annonce selon laquelle il avait été, il avait atteint le million de ventes, ce qui n'était pas gagné, hein, même si le jeu avait l'air pas mal. C'est un jeu dont j'ai pas énormément parlé parce qu'il me semblait être un jeu un petit peu de niche. C'est clairement un jeu dans la, à la sauce des Souls avec un habillage un petit peu différent. Mais bon, voilà, il a trouvé son public et il se vend très bien, donc. On a ce jeu et Resident Evil aussi à prendre en compte. On le disait, Horizon qui arrive là demain, Nintendo avec Zelda, enfin la Switch avec Zelda, Mass Effect Andromeda ensuite, et puis on en a d'autres qui viennent après également. Ne serait-ce que Persona qui arrive, c'est en avril si je ne m'abuse, donc on n'est plus très très loin. Donc il y a tout un tas de trucs déjà en ce début d'année et bon, ça confirme le fait qu'on se demande quand on va pouvoir y jouer. Mais bon, pour le moment, les impressions sont bonnes sur absolument tout. Donc tout va bien. Un petit peu d'aspect négatif quand même. ZeniMax a mis à exécution sa menace de demander une injonction pour l'arrêt des ventes des Oculus. Vous vous souvenez qu'on avait parlé du procès qui avait accordé 500 millions de dommages et intérêts à ZeniMax et une partie de ces dommages et intérêts était pour l'utilisation de propriété intellectuelle de ZeniMax dans le design de l'Oculus. Et du coup, là, ils avaient annoncé qu'ils pourraient demander l'arrêt de la vente du produit. Et ben, ils vont le demander. Alors, on ne sait pas si ça va être mis en effet, on ne sait pas s'il va y avoir effectivement une suspension de la vente des Oculus. On imagine, comme on le disait à ce moment, que Facebook va vraiment vouloir que ZeniMax s'en aille et donc va être d'accord pour payer encore plus pour qu'ils arrêtent de les emmerder. Mais ZeniMax va demander, si je ne m'abuse, des royalties sur les ventes. Donc, des sommes à chaque vente de matériel. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué pour... Enfin, c'est un beaucoup plus gros engagement. Donc, bref, est-ce que c'est une stratégie de ZeniMax pour essayer d'avoir plus d'argent? Est-ce qu'ils veulent effectivement avoir absolument ce revenu constant? Bon, on ne sait pas. C'est en tout cas un petit peu... Je vais être gentil, c'est ennuyeux pour Oculus, parce que ça avec les jugements qui ont donné raison à ZeniMax, bah, on est dans une situation où Oculus et Facebook ne sont clairement pas en position de négocier à leur avantage. Donc, est-ce que ça va aller effectivement jusqu'à la suspension des ventes des Rift? On ne sait pas, mais peut-être que si vous vous disiez que vous voudriez peut-être acheter un casque de réalité virtuelle dans les prochaines semaines, on se dit qu'il vaut peut-être se tourner vers le PlayStation VR si c'est votre cam ou si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Mais bon, si c'est le même type d'appareil que vous regardiez, enfin dans les prix un petit peu plus élevés, on se tournera peut-être vers le HTC Vive de HTC et de Valve, parce que l'avenir... Allez, il y a quand même Facebook derrière, on va pas dire que l'avenir est incertain pour Oculus. Enfin, il risque d'y avoir des petites turbulences, quoi. Bon, on arrive presque à la fin. J'ai encore deux petits jeux un peu bizarres dont je voudrais vous parler, mais il y a aussi une conférence dont je voulais vous parler. C'est la conférence DICE, qui est la conférence, en fait, de l'Académie des Arts et Sciences Interactifs, je crois, si c'est comme ça que ça s'appelle. En gros, c'est l'industrie du jeu vidéo qui a son DICE Summit tous les ans et qui non seulement donne des prix aux différents jeux, et on a beaucoup d'occasions de voir les différents prix, mais comme je le dis toujours, DICE, c'est l'académie, c'est comme les Oscars, parce que c'est les professionnels de l'industrie qui vont décerner leur prix. Et là, on a non seulement cet aspect, mais on a aussi les conférences qui sont hyper intéressantes à regarder, parce que c'est les développeurs qui viennent livrer leur secrets de développement, ou plutôt les réflexions, les enseignements qu'ils ont tirés du développement de tous ces jeux qui sont acclamés par l'industrie elle-même. Donc, alors évidemment, on a beaucoup d'Overwatch. Hein, Overwatch a eu le jeu de l'année et d'autres jeux game design, enfin bref, d'autres, pardon, je veux dire d'autres titres comme le game design au hasard, mais pas que. On a je sais pas exactement comment c'est différent de game design, mais game direction, outstanding achievement in game direction pour Inside. Ça me fait plaisir parce qu'on en avait beaucoup parlé dans l'émission. Je l'avais découvert en fin d'année dernière et c'était l'un des jeux, de mes jeux de l'année. On a Superhot VR qui a été mentionné et c'est un jeu auquel j'ai pas joué. Bon, en VR parce que j'ai pas de casque VR sur la plateforme, mais même Superhot, en fait, j'y ai jamais joué, donc je vais peut-être m'y intéresser. Bon, d'autres jeux, Eagle Flight a été mentionné. Bon, c'est Immersive Reality, donc c'est un petit peu spécifique, mais tout de même. Le jeu mobile de l'année, Pokémon Go, c'est pas une surprise. Jeu portable, distinction importante, Pokémon Sun and Moon. Le Sprite Award, là aussi à Inside. Online Gameplay Overwatch. Stratégie Simulation Civilization 6. Sports Game, le jeu de sport, c'est Steep qu'il a eu. Jeu qui est vraiment passé inaperçu. En fin d'année, enfin passé inaperçu, on en a entendu parler, mais il n'a pas eu un énorme succès, en tout cas, il n'a pas eu beaucoup de visibilité. Jeu de rôle slash MMORPG Dark Souls 3, toujours, je pense qu'on sent dans cette, au-delà du fait que c'est certainement un excellent jeu, je crois qu'on sent vraiment l'influence du gameplay, du game design plutôt, pas juste du gameplay, mais du design qu'a eu la série des Souls, là encore, sur les développeurs dans le monde. Jeu de course Forza Horizon 3, peu de surprises. Jeu de combat Street Fighter 5, ça fera grincer des dents certains d'entre vous. Et bref, on en a encore encore plusieurs. Uncharted 4, Battlefield 1, Doom pour la musique. Bon, ok, c'est vrai que la musique c'est un petit peu particulier, mais voilà. Pour les personnages de Last Guardian, etc., etc. Et comme je disais, on a Uncharted 4 qui est cité plusieurs fois également. Je crois que j'ai tout mentionné. Mais au-delà de ça, encore une fois, si vous vous intéressez à ces jeux-là, il y a sur YouTube, si vous tapez DICE Summit 2017, DICE c'est avec des points, c'est un acronyme, hein, donc DICE Summit 2017, il y a un enregistrement des keynotes, et la première partie, évidemment, moi me parle beaucoup, mais c'est la partie sur Overwatch, où Jeff Kaplan, le directeur du jeu, est venu expliquer comment ils ont amené le monde, comment ils ont conçu le monde, comment ils ont imaginé le monde d'Overwatch et comment ils ont développé cet univers. C'est le thème du sommet DICE de cette année. Et c'est vraiment intéressant parce que on a, dans toutes ces conférences, bien sûr, mais là, c'est le plus visible et le plus connu, une vision, on ouvre une porte sur le processus de développement et le processus de réflexion qu'ont ces développeurs. Donc c'est vraiment passionnant. Je vous encourage à vraiment aller voir ça. C'est un petit peu comme comme on l'attrait vraiment pour la BlizzCon. Et c'est à ma connaissance l'un des seuls événements de développeurs où on a cette porte ouverte sur la manière dont ils conçoivent leur jeu. C'est la BlizzCon et c'est pour Blizzard bien sûr. Et le seul autre moment où on peut voir ça, et c'est vraiment pour tous les développeurs, c'est ce DICE Summit. Donc c'est toujours un sommet que je suis avec intérêt et que je vous encourage à aller regarder si ce genre de choses vous intéresse. L'une des choses qu'a mentionné Jeff Kaplan dans cette présentation, c'était à quel point ils avaient essayé de rendre le monde et le jeu accessible et que cet aspect de leur intention de design avait mené à l'inclusivité dans le jeu et que ça avait été fait dans ce sens et qu'ils n'avaient pas essayé de forcer l'inclusivité, ils n'avaient pas pensé l'inclusivité comme un principe de base, mais vraiment que c'était le résultat de leur intention de rendre le jeu accessible à tous. Je pense que c'est un petit peu une différence, une distinction sans une différence, ou je sais plus quelle est l'expression en anglais, mais c'est intéressant quand même de voir cette réflexion, surtout dans le contexte de un autre développeur qui a parlé de ce problème de l'inclusivité, c'est Marvel Games plus spécifiquement. Il y a le développeur, le directeur créatif de Marvel Games, qui lui aussi a parlé pendant le sommet DICE. C'est Bill Roseman qui et il a dit en fait que l'inclusivité était un élément important dans le thème de du world building de du développement des mondes et qu'ils allaient prendre une approche beaucoup plus active dans cet aspect de leur jeu désormais. Comme ils l'ont fait parfois dans leurs comics, on a beaucoup de d'exemples, enfin beaucoup, on a de plus en plus d'exemples en tout cas, on pense à Kamala Khan qui est la toute dernière Miss Marvel, on pense à Miles Morales qui est le nouveau Spider-Man, il parlait d'un exemple d'un super-héros qui était malentendant, qui s'appelle Blue Ear, l'oreille bleue, etc., etc. Et donc, ils disent qu'ils vont vraiment avoir une approche active de cette inclusivité dans leur jeu à venir. Et ils parlent de cet aspect avec en utilisant l'idée qu'ils ont beaucoup de pouvoir parce qu'ils sont très présents dans la culture aujourd'hui et que, bien sûr, avec beaucoup de pouvoir viennent une grande responsabilité, comme on le répète souvent, cette citation du premier Spider-Man qui est devenue un petit peu emblématique et qu'on nous ressort à toutes les sauces, mais qui a quand même un poids et une réalité qui sont, à mon sens, assez indéniables. Donc voilà, c'était le thème qui est revenu plusieurs fois dans ce sommet DICE. Mais au-delà de ça, encore une fois, c'est un événement intéressant dans l'industrie que je rage à suivre. Et on va finir avec deux petits jeux intéressants. C'est des jeux, c'est pas vraiment what the fuck, mais c'est des petits jeux qui ne sont pas forcément sur le radar de tout le monde et dont je voudrais parler rapidement. Le premier, c'est Wonder Boy The Dragon's Trap, qui est un remake d'un très vieux jeu, et j'avais déjà évoqué, je crois, Wonder Boy, qui va avoir un mode, en fait, avec les graphismes refaits, et il arrive au printemps, pardon, sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch, on y revient toujours. Il va avoir un mode avec les graphismes refaits qui sont assez sympas. Je l'ai trouvé très moche à l'origine et puis finalement, c'est pas si moche que ça, mais on va pouvoir passer du mode graphisme nouveau au mode graphisme rétro avec la musique aussi qui est améliorée. Et là où j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est au-delà du fait que Wonder Boy est un jeu qui a laissé un souvenir à ceux qui ont joué à l'époque, hein. C'était un 8 bits, hein, donc ça date pas d'hier. Au-delà de ça, c'est vraiment intéressant, surtout pour la musique, en fait, de voir comment ils ont gardé la musique originelle, enfin les thèmes originaux, et comment ils les ont réinterprétés pour l'époque moderne. Et vraiment, je vous encourage là encore à aller voir ce trailer où ils alternent entre la version rétro et la version moderne, parce que c'est hyper intéressant de voir comme vraiment c'est la même chose, mais améliorée. C'est difficile à décrire parce que on se dit quand on écoute et c'est la même chose pour les pixel graphismes, le style pixel en général, mais quand on voit la manière dont c'est fait aujourd'hui, on se dit « Ah ouais, bah c'était à peu près comme ça à l'époque. » Et quand on voit le truc de l'époque, surtout pour le 8 bits, que ce soit pour les graphismes ou le son, on se rend compte à quel point c'était vraiment pas ça, à quel point notre mémoire enjolive à la fois le graphisme et le son. Et ça, c'est un excellent exemple de ça, de toujours quand on a ces modes où on passe d'un type de graphisme à l'autre. Mais là, vraiment, c'est très frappant, quoi. Donc ça, c'était un truc que je voulais évoquer. Et puis l'autre, c'est le nouveau jeu de Cellar Door Games, qui est le développeur de... Voilà, Rogue Legacy. Décidément, je suis pas en forme. Rogue Legacy, donc un roguelike qui a... Je crois même qui a été le premier nouveau roguelike, entre guillemets, à ramener le roguelike sur le devant de la scène, qui a eu un énorme succès. Et leur nouveau jeu qui est annoncé, il sera disponible sur Steam, Windows 10 et Xbox One. Et ça m'étonnerait pas qu'il arrive sur Switch aussi, ça a l'air d'être un petit peu la mode. Mais en tout cas, il n'est pas annoncé encore. Il est juste en développement, on ne sait pas quand il sera disponible. Mais c'est un jeu à 4 en ligne qui est une sorte de... Comment dire, c'est un beat them all en pixel, en graphisme pixel, qui a l'air assez fou, mais enfin assez chaotique, mais en même temps, quand on voit la qualité de Rogue Legacy, on se dit que ces gens-là savent ce qu'ils font. Et du coup, avec quatre personnages qui sont en fait quatre classes de persos différents, on a vraiment l'impression dans ce design que, pardon, dans ce trailer, que ils ont poussé le gameplay au maximum, et il a l'air hyper ciselé. Alors, je pense que ça va pas forcément être un jeu pour tout le monde, parce que ça a l'air, c'est des graphismes vraiment pixels, et puis ça a l'air d'être un gameplay compliqué. Mais si vous êtes client de ce genre de truc, c'est un truc à aller regarder, parce que vraiment le jeu en ligne coopératif à 4, dans ce genre, ça existe pas énormément dans ce type de truc. Ça me fait penser presque à Broforce, en fait, pour ceux qui se souviennent de ce jeu-là. Ça serait presque une évolution de Broforce. Je sais pas si vous trouverez ça, une sorte de Broforce, mais avec une vue 3D isométrique, vue de côté et pas de travers. Et puis en même temps, à moitié un bullet hell, et puis avec des classes, je sais pas, ça a l'air intriguant, ça a l'air sympa, et moi je garderai un œil dessus, évidemment, s'il vient se pluguer sur la Switch, qui risque d'avoir besoin de jeux en plus dans les mois à venir. Mais voilà, donc c'est un jeu en coop qui vaut le coup d'être... de garder un œil dessus, parce qu'on a énormément de jeux en versus, mais relativement peu de jeux en coop ces derniers temps, donc moi ça m'intrigue toujours. Quoi d'autre? Bon, je crois que on va s'arrêter là. J'avais quelques petites news en plus, mais qui sont pas majeures. Donc je pense que je vais m'arrêter là, surtout que on va avoir une autre émission dans 2 semaines qui va arriver, où on aura un gros morceau avec bien sûr nos impressions et nos reviews sur la Switch. J'espère que je réussirai à me faire livrer d'ici là. Mais je suis sûr qu'on aura des gens qui l'auront eu entre les mains. Donc je sais pas si quand on fera l'émission, parce que la Switch arrive vendredi, mais tout le monde va en parler, donc on a 10 jours avant, entre la sortie de la Switch et le prochain épisode. Peut-être qu'on laissera passer les 10 jours pour avoir le temps vraiment de prendre un peu de recul là-dessus, puisque tout le monde va en parler au moment de la sortie, donc de toute façon vous aurez, je pense, les impressions. Mais je sais pas, peut-être qu'on fera un mini truc à ce moment-là pour en parler, ou je sais pas, on verra comment ça se passe. Mais a priori, je crois qu'on va laisser les 2 semaines se passer, parce qu'on n'aura pas forcément des choses à vous apporter en plus de tout ce qui sera déjà en train d'être dit un petit peu partout sur la toile, qu'elle soit française ou globale, internationale, vu l'enthousiasme et la hype qui sont en train de monter. Donc, mais par contre, j'ai l'émission Pixels qui sera, elle, je pense, disponible la semaine prochaine, puisque c'est, vous savez, on alterne entre français et anglais sur le jeu vidéo, comme on alterne entre jeu vidéo et tech en français. C'est bien compliqué tout ça, mais les gens qui connaissent le comprennent. Donc, si vous êtes impatient, vous pourrez écouter Pixels et savoir ce que j'aurais pensé de la Switch dès le début de la semaine prochaine, peut-être mardi, je sais pas quand j'aurai le temps de l'enregistrer, mais on verra à ce moment. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode en solitaire, quand même presque 3 quarts d'heure, donc j'ai été court, mais pas si court que ça. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis content de pouvoir quand même vous livrer un épisode, même si les choses sont un petit peu compliquées au niveau de l'emploi du temps et de ce qui se passe autour de moi. Donc voilà, on s'abandonne pas, on est toujours là. Et si vous avez des commentaires à faire, surtout n'hésitez pas, comme toujours, sur le site frenchspin.fr ou alors sur Twitter ou Facebook. Vous connaissez le nom. C'est NotPatrick sur French Spin et sur Twitter et sur Facebook. Donc vous pouvez aller me laisser des commentaires là-bas, Et si vous avez encore un petit peu de temps à perdre, vous pouvez aller sur iTunes pour laisser une review avec le nombre d'étoiles que vous estimez approprié, 5 par exemple au hasard. Et une review, ça fait toujours plaisir et vous le savez, ça nous permet de remonter dans les classements et d'avoir un petit peu plus de visibilité pour que d'autres auditeurs puissent nous découvrir comme vous. Et bah, si jamais c'est pas là-dessus que vous êtes, que vous traînez, bah, vous pouvez sur les réseaux sociaux ou même, je sais pas, à votre boulot ou à vos amis, leur dire « Ah, mais t'écoutes pas le rendez-vous jeu, mais t'es fou, c'est un super podcast sur le jeu vidéo !» Les encourager à venir écouter l'émission si vous pensez bien sûr que l'émission en vaut la peine. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir consacré ces trois quarts d'heure et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao à tous!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.